Shmuel Redby, La quinte de Jérusalem, Nouvelle œcuménique. Prologue. Depuis sa fondation, il y a plus de 3000 ans, Jérusalem passe constamment de main en main. Le roi David en expulsa les Cananéens. Son fils Salomon y construisit le premier temple que brûlèrent les Babyloniens. Entre les conquêtes de Nabucodonosor, d'Alexandre le Grand et de Titus, les Juifs y revenaient inlassablement. Puis arrivèrent les Parthes, les Arabes, les Croisés, les Mamelouks, les Turcs, les Anglais, les Jordaniens et enfin les Israéliens. La population de 700 000 habitants se partage également entre Juifs et Arabes. Malgré le grand nombre d'églises et de monastères, les chrétiens constituent aujourd'hui une très faible minorité. La ville reste l'objet d'une rivalité constante et acharnée entre Israël et l'autorité palestinienne. Un seul point d'accord subsiste malgré tout, le caractère sacré de cette ville sainte. Un abîme infranchissable sépare les parties. Chacun déclare que la ville lui appartient, et ce, de toute éternité. Les Juifs soutiennent que les musulmans les ont expropriés, les musulmans affirment qu'il n'y a jamais eu de Juifs à Jérusalem. La chrétienté, qui a choisi Rome comme son centre spirituel, évite de prendre parti. Au centre de la ville se dresse la colline du Temple, appelée aussi Mont du Temple. Une belle mosquée de taille moyenne, avec un joli dôme d'argent, s'y élève à l'emplacement d'une ancienne église byzantine. En dessous, on devine encore les vestiges du temple de Salomon. La presse se refuse toujours à rapporter des faits qui sortent du domaine courant. Elle n'y consent que si l'on y trouve du sang, de l'argent et de la chair humaine. En l'absence de sensationnel et de piquant, de scandaleux et de scabreux, elle relègue l'affaire au bas de l'avant-dernière page du journal. Aussi, l'étrange histoire qui va nous occuper ici n'a-t-elle éveillé aucun écho, malgré son caractère hautement cosmique, mais nullement comique. Ce récit est-il purement imaginaire? On ne saurait dire. Il n'a d'autre but que de donner à réfléchir sur le cours de l'histoire, la condition humaine, le sens des mots, la mathématique et l'harmonie, le temps et l'espace. Voilà. On peut commencer maintenant. Chapitre 1. Giovanni del Morino, cardinal. 6h30. Le jour va bientôt poindre sur la ville de Milan. Dans la glace de sa coiffeuse Pompadour, l'archevêque contemple le morne paysage quotidien qui s'étale derrière lui. De cette demeure austère s'élève une odeur de sainteté, et un peu aussi de moisie. Tout en passant le rasoir électrique sur son visage long et osseux, il réfléchit à haute voix. Des rideaux écarlates, des tapisseries pourpres, du cuir rouge partout, un tapis de même couleur, et puis ces vêtements, cette robe, ah! Si je pouvais avoir un peu de vert comme les musulmans, un peu de bleu comme les juifs. Mais ils se refusent à changer quoi que ce soit ici. Le mal que j'ai eu pour leur faire admettre l'emploi du rasoir électrique, mon Dieu, quel supplice! Son regard se porte un moment sur le crucifix au-dessus de la tête du lit. Et puis pas de soleil, pas de chaleur humaine. Il fait un froid de canard dans cette cathédrale. Et n'était-ce l'orgue pendant l'office du dimanche matin, j'avoue, à ma grande honte, que je m'ennuierais presque ici. Si je pouvais faire quelque chose de différent, quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Si j'avais le droit ou le pouvoir d'utiliser mon imagination pour créer, pour agir, et enfin pour faire le bien, vraiment le bien. Si je pouvais contribuer d'une façon concrète au bonheur de l'humanité, au lieu d'en parler seulement. La toilette terminée, il s'habille. Il a toujours refusé d'avoir un valet de chambre. On a mis à son service deux capucins qui se disputent l'honneur de lui enfiler ses chaussettes. Il en a eu assez de toutes ces simagrées. le rôle des deux moines se limite maintenant au ménage, à la cuisine et au service. Le cardinal comprend bien que faire son café soi-même, cela veut dire un éternel conflit entre l'agrément du cappuccino et la dignité de la robe épiscopale. En conséquence, il fait contre mauvaise fortune bon cœur. Son éminence ouvre le tiroir de la coiffeuse et en tire un minuscule récepteur de radio. Il le colle à son oreille de façon à ce que le son ne filtre pas à travers la cloison qui le sépare des capucins. C'est le flash d'info qui l'intéresse, rien d'autre. Le pape est encore dans le coma. Cela fait maintenant 3 semaines que le digne octogénaire a perdu connaissance sur le balcon en pleine bénédiction dominicale. Depuis, seuls les tuyaux semblent le retenir à la vie. Tout porte à penser que d'ici 4 mois, le cardinal Del Morino sera le locataire numéro 1 du Vatican sous le nom de Jean XXIV. Il écoute encore 1 minute. Préparatifs des Jeux Olympiques, élections au Japon, à Jérusalem, des émeutes de jeunes Arabes contre les fouilles archéologiques des Israéliens sous la mosquée d'Al-Aqsa. Les pensées croissent et multiplient dans son esprit. Quand je pense que l'imam de Jérusalem a 9 enfants, que les 2 grands rabbins d'Israël en ont 7 chacun, et que moi, dans 4 ou 5 mois, on m'appellera le Saint-Père. Quelle misère ! Le petit déjeuner se passe dans un ennui routinier. À la 3e tasse de café, cependant, l'un des capucins tend au cardinal une grande enveloppe jaune portant la mention « personnelle ». L'enveloppe décachetée a été mal recollée, comme d'habitude. Son éminence retourne la lettre. Elle provient de la République tchèque, plus précisément du conservateur du musée, au château de Karlstein, Karlstadt. Assez intrigué, il ouvre le pli. La missive est en un assez bon allemand. Elle abonde en redondances et en tournures obséquieuses et respectueuses. En substance, l'honorable conservateur explique qu'il y a dans un des salons du château un piano à queue qui avait appartenu à l'impératrice Sissi. Le précieux instrument prend trop de place et gêne le passage. Et comme la baraque est pleine de vieux trucs dont il ne sait quoi faire, il se verrait bien content si l'Église catholique consentait à l'en débarrasser. Comme argument à « décharge », si l'on peut dire, il précise qu'il honore la cathédrale locale de sa présence pendant 1h30 tous les dimanches matins. « Tiens, se dit le cardinal, bonne idée, faudra y penser. On pourrait peut-être faire quelque chose avec ça. » Il dicte une réponse au moine responsable de la correspondance. L'Église catholique romaine est heureuse d'accepter le présent admirable que monsieur le conservateur, etc. Nous vous sommes profondément reconnaissants du sacrifice remarquable, etc. En termes propres, ne vous inquiétez pas, on va faire emballer ça aux frais du denier du culte, ça va rouler comme sur des roulettes. Cela ne prend 1 semaine et demie. Le Steinway arrive intact. On l'installe dans une salle attenant à la grande nef en attendant mieux. Affaire à suivre. Chapitre 2. Ali Abdelkabir, imam. Les 3 Israéliens entrent dans le cabinet de travail de l'imam.
« En quoi puis-je vous être utile, que le ciel vous emporte ?»
Le plus âgé des 3, un homme de taille moyenne aux cheveux grisonnants, porte une chemise au col ouvert. Il répond à mi-voix.
« Vous aviez promis de ne pas nous embêter, et vous n'avez pas tenu parole. »«
Je fais ce que le ciel décide, et si le ciel vous embête, eh bien, adressez-vous à lui !»
L'Israélien continue. Vendredi, à 12h30, vous mettrez un peu d'eau dans votre sermon. Sinon, vous sautez, c'est compris ?
Si vous croyez que les menaces ont prise sur le ciel, mon pauvre ami !»
Il y a un court silence. Le visiteur reprend la parole. « La semaine dernière, vous nous avez obligés à lâcher 2000 flics dans la nature. Et ça vous a fait, à vous, 40 blessés et 200 arrestations.
Et vendredi prochain ?»«
Je ne vous demande pas d'appeler vos ouailles à nous lécher les semelles. Ce que je veux, c'est que le nombre des blessés descende à 5 au maximum, et les arrestations à 8, pas davantage. » »«
Je n'ai pas le plein contrôle de la situation. »
L'homme à la chemise au col ouvert semble perdre un peu patience. « Vous avez le contrôle de la hauteur des flammes. C'est bien suffisant. » L'imam n'a jamais eu peur des menaces. Il dit calmement. « L'intérêt de l'islam est de se débarrasser de votre présence dans cette ville. Vous savez bien que c'est impossible. Le seul moyen d'en sortir, pour vous comme pour nous, consiste à établir un équilibre avec un minimum de friction. » L'imam élève la voix. « Et tous les types qui fouillent là-dessous, ce n'est pas de la provocation ?»«
Nous non plus, nous n'avons pas tout à fait le contrôle de ce qui se passe ici.
Et surtout, nous ne réglementons pas le cours de l'histoire ancienne, que voulez-vous »«
Et si je refuse ?» rétorque sèchement l'imam.
« Je vous l'ai dit, vous sautez.
»« Je vous croyais plus malin que ça, vous autres, les services de sécurité israéliens. Si je saute, mon remplaçant montrera bien plus de violence que moi. » Je suis un mouton, moi, et lui, c'est un lion.
Possible. Le mouton, voyez-vous, ça fait un excellent méchoui. Et les lions, on les met aux os, au pain sec et à l'eau.
Après un long silence, l'imam Ali déclare. Je ne suis pas un mouchard, moi.
On ne vous demande pas ça. On vous enjoint seulement de ne pas aggraver une situation qui risque à tout instant de mettre toute la région à feu et à sang. Nous n'avons pas besoin de ça pour le moment.
Si le ciel... Fichez-nous la paix avec le ciel. Avec lui, on se débrouillera encore.
Le vrai problème, ce sont vos sermons. Et jusqu'à nouvel ordre, vos sermons, c'est vous qui les prononcez, et pas le ciel.
Fasse le ciel que la maison de la paix se construise enfin sur les vestiges de la maison du glaive. Soyons enfin débarrassés des Juifs et de leur présence sur cette terre.
L'Israélien déclare nettement. En attendant, vendredi, à midi et demi, « Vous savez ce que vous avez à dire, et surtout à ne pas dire. » Encore un silence. L'imam reprend amèrement. « Le moteur de la Fiat de ma femme a rendu l'âme. »«
À quel garage elle agonise, la Fiat ?»«
Chez Moussa, comme d'habitude. »«
J'ai besoin de la facture. Sans la facture, je ne peux rien faire. » »«
La voici, » répliqua l'imam en sortant de son tiroir une enveloppe fermée. Considérez la chose comme faite.
Le ciel me pardonne de me vendre à vous, damné de l'enfer.
Sans trop m'engager, j'estime que le ciel comprend tout à fait vos scrupules. Il vous tiendra sûrement en haute estime pour cela.
Il ne s'agit pas là de corruption, mais tout au plus d'une simple redistribution équitable des finances publiques. Que votre conscience reste en repos.
Sortez d'ici avant qu'on vous coupe en morceaux.
L'entretien est fini. Une poignée de mains glaciales ratifie l'accord. S'il y a des émeutes sur le mont du Temple vendredi après-midi, le sermon de l'imam Ali n'en sera pas la cause immédiate. Ali Abdelkabir réfléchit.
C'est quand même triste. Et puis, il y a tellement de contradictions dans tout cela. D'un côté, le Coran nous enseigne que les Juifs ont reçu la parole divine et qu'il faut les respecter et les protéger. De l'autre, les Juifs ont modifié cette parole et s'éloignent ainsi de la volonté du Créateur. Ayant falsifié sa parole, ils doivent servir les musulmans et n'ont pas droit à l'indépendance politique ou économique. Cependant, nous voyons qu'ils ont un état à eux, ils farfouillent sous cette colline et ils finiront peut-être bien par trouver ce qu'ils y cherchent. Si l'on pouvait coopérer avec l'Église et empêcher toutes ces fouilles et toutes ces manigances. Par ailleurs, si le Vatican marchait avec eux, comme cela a l'air de se dessiner depuis une trentaine d'années, alors qu'adviendrait-il de l'islam ?
Le secrétaire de l'imam frappe à la porte. Il a une lettre à la main. L'expéditeur est le fameux cardinal Del Morino. On parle de lui comme du prochain pape. L'imam ouvre la lettre avec curiosité et lit. « Votre honneur, la paix sur terre constitue notre but commun et notre meilleur vœu, à vous comme à nous. J'ai donc décidé de faire appel à la générosité et à la noblesse de votre honneur. J'ose enfin lui demander d'accepter de l'Église catholique un humble présent qui ne fera que resserrer les profonds liens d'amitié et d'estime qui nous unissent déjà depuis de longues générations. Il s'agit d'un instrument de musique, d'une qualité rare, une pièce de collection, un chef-d'œuvre de la menuiserie et de l'harmonie européenne. En un mot, ce piano à queue Steinway appartenait à l'empereur Franz Joseph il y a une centaine d'années. Connaissant votre honneur comme un homme de culture, une éminence en lettres et un protecteur des arts, j'ai jugé opportun d'accorder ce présent à la mosquée Al-Aqsa, où votre honneur officie. Un mot d'acceptation de votre honneur nous permettrait une fois encore de remercier la clémence divine et assurerait une alliance éternelle, urbi et orbi, entre l'islam et le Vatican. Suivent toutes sortes de formules aimables et flatteuses et une question d'ordre général sur les modalités d'expédition du piano à queue. D'entrée de jeu, l'imam Ali pense à faire une boulette de la missive et la jeter à la poubelle. Mais, réflexion faite, il se ravise. Voyons, voyons, qu'est-ce qu'il propose cet animal-là? Une alliance? Des liens indissolubles? Cela pourra peut-être servir nos intérêts communs, comme il dit. Il parle de la paix. En fait, moi aussi j'en parle de cette paix. Pas exactement dans le même sens que lui, mais enfin, il ne s'agit là que de divergences d'ordre sémantique. Le but reste le même. Pour moi, me débarrasser de ces intrus si encombrants, et pour lui, de les convertir au catholicisme. C'est à peu près la même chose. Chapitre 3. Accord et désaccord. Quinze jours plus tard, le capucin numéro 2 tend la réponse au cardinal. Il accepte, annonce-t-il à l'archevêque. Celui-ci tire la missive de l'enveloppe décachetée. Il dissimule à peine son mécontentement d'être toujours le dernier à lire son propre courrier. La lettre abonde en superlatifs assez équivalents à ceux qu'il a employés lui-même. Il y a 3 pages d'éloges et de remerciements, 2 pages d'espoir et de prières, et quelques lignes qui indiquent exactement le problème. Hélas, nous vivons en un temps où la maison du glaive dresse encore ses armes menaçantes. Tout envoi de colis volumineux doit passer l'examen de la douane israélienne et de ses services de sécurité. Malgré ma volonté de recevoir directement ce digne présent, le ciel me soumet souvent à la volonté précaire et momentanée de cet occupant qui me contraint à passer par lui pour toute démarche sortant du quotidien. Vienne le jour où ma liberté me sera enfin rendue. En attendant, j'ai mes contacts dans les milieux de la sécurité et j'ai bon espoir d'arriver... La fin de la missive propose une communication directe par téléphone ou par e-mail, ce qui satisfait pleinement le cardinal. Il demande la réunion du conseil pontifical en l'absence du souverain pontife, qui, décidément, se refuse à s'éveiller ou à décéder. Il expose à ses collègues la nécessité de faire un geste d'importance considérable pour l'avenir de l'humanité. Un retour brillant à Jérusalem, après 8 siècles d'absence, un événement d'ordre culturel et de nature profondément œcuménique, voilà qui pourrait servir les intérêts de la paix sur terre et de ses principaux représentants, le haut clergé catholique. On établit une conférence vidéo entre le cardinal, l'imam et le chef de la sécurité intérieure de l'État d'Israël. Les détails de l'envoi sont réglés à l'amiable. L'État hébreu s'engage même à renoncer à l'examen du chargement destiné à l'imam et partant de Milan à la date convenue. Aucune allusion n'est faite d'une part et de l'autre à un soupçon quelconque, selon lequel un tel chargement pourrait contenir de l'armement ou des munitions. Tout se règle sur la base de la confiance et du respect mutuel. Inutile de dire que chacun des 3 parties n'en pense pas moins, mais le colloque s'effectue dans les termes les plus amicaux et les plus cordiaux. Un avion spécial est frété par le Vatican. À midi tapant, le cardinal atterrit à Lod, à la tête d'une délégation comprenant 3 évêques, les 2 capucins, 6 journalistes et, bien entendu, le piano à queue. À 1h, tout est terminé à l'aéroport Ben Gurion. Le chef de la sécurité reçoit la petite troupe et un représentant de l'imam explique que son honneur recevra le cardinal et son présent à Jérusalem. Aucune explication ne justifie son absence, mais tout cela sent la politique à 15 lieues à la ronde. La presse israélienne a envoyé quelques rares délégués à l'aéroport international. Les relations entre l'islam et le Vatican ne l'intéressent guère tant qu'on n'aura pas découvert une ceinture explosive sous la robe de l'archevêque. Quant au piano, un bastringue de plus ou de moins, il n'y a pas là de quoi fouetter une caméra. Pour l'imam Ali, on en reparlera vendredi, après son sermon habituel et ses appels à la rébellion et à la libération des lieux saints. 2h30. Le piano est déchargé par 6 débardeurs de taille considérable. Ils ont reçu les ordres et les fonds nécessaires pour que rien de fâcheux n'arrive aux précieux instruments. Sur l'esplanade de la mosquée, l'imam reçoit ses respectables visiteurs. On échange des sourires et des discours de fraternité et de commun accord. En bas, quelques groupes de juifs s'assemblent pour la prière de l'après-midi. L'imam explique que l'esplanade est construite juste au-dessus d'un mur que les juifs appellent la muraille occidentale et le monde entier le mur des lamentations. Le cardinal se rappelle ce qu'il a lu autrefois sur le temple de Jérusalem, mais il juge prudent de n'en rien dire. Il n'y aura pas d'incident diplomatique. Pour sa part, l'imam évite de s'attarder vainement à ce propos. On installe le piano dans une grande salle située de l'autre côté de la mosquée. Ce local servait autrefois d'oratoire secondaire. 200 à 300 personnes peuvent s'y asseoir, juste ce qu'il faut pour un récital de piano. Soudain, une ombre passe sur le visage du cardinal Del Morino. « Nous avons oublié quelque chose de toute première importance. »«
Quoi donc ?» demande l'imam un peu inquiet.
Son regard parcourt la salle où il devine çà et là, entre les visiteurs, la présence des agents israéliens qui surveillent la scène d'un œil glacé sous les 32 degrés à l'ombre.
« L'accordeur !» répond l'ecclésiastique à mi-voix.
L'imam sourit d'un air indulgent.
« Nous y avons pensé, Votre Excellence. »
Le cardinal tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'adresser à son interlocuteur. Il ne peut l'appeler « mon fils », ne veut l'appeler « mon père » et craint de le nommer « mon frère ». À défaut, le terme « votre honneur » lui paraît le moindre mal. De son côté, l'imam préfère éviter l'appellation « monseigneur », ses fidèles pouvant s'en estimer choqués. Le terme « votre excellence » lui semble donc idéal dans le cas présent.
« Vous avez un accordeur ? Je veux dire, un accordeur d'harmonie occidentale, votre honneur ?»«
Bien évidemment. D'ailleurs, vous devez savoir, votre excellence, que depuis une dizaine d'années, nous passons petit à petit à l'harmonie que vous appelez « moderne » au détriment des sonorités orientales classiques. On y perd beaucoup, bien sûr, mais enfin, il faut marcher avec son temps.
Et votre accordeur pourra donc nous assister bientôt ? Vous comprenez, avec ce déménagement, l'accord a un peu souffert.
Mais il est là, votre excellence.
L'imam fait signe à un monsieur, debout au premier rang des invités, de s'avancer. Je vous présente monsieur Yann Ourfali. L'homme, âgé d'une 50aine d'années, porte un complet européen de bonne coupe, mais dénué de tout signe d'opulence. Il se courbe et baise la main du cardinal. Ce dernier comprend qu'il a affaire à l'une de ses ouailles orientales.
Monsieur Ourfali appartient à une vieille famille arménienne, et il est né comme moi à Jérusalem. On le connaît bien dans toute la cité d'Al-Quds. Il est même l'accordeur officiel des consulats occidentaux de l'autre côté de la ville.
Le cardinal essaie de lire derrière les mots leur sens exact, mais il ne parvient pas à saisir toutes les subtilités d'une situation politique inextricable.
« Enchanté de faire votre connaissance, monsieur, » lâche-t-il finalement.
Dans les quelques discours prononcés, on remarque l'absence du mot « Israël ». Cette expression magique risquant de troubler l'accord et l'équilibre, on l'évite prudemment. À la fin de la cérémonie, le public se disperse et les agents israéliens s'esquivent. L'archevêque, l'imam et l'accordeur demeurent seuls avec le piano. Les deux capucins montent la garde près de la porte d'entrée.
Yann Urfali ouvre la mallette qu'il a apportée. Il en retire trois longues clés d'accordeur qu'il dépose délicatement dans le couvercle. Il soulève avec respect le dessus du piano et met en place la baguette qui le retient ouvert. Il s'approche du clavier et presse le « la » du quatrième octave. Les deux cordes du « la » vibrent avec un fort battement. Pas d'unisson. Il répète l'opération sur le « mi » et le « si » du cinquième octave. Il demande un siège, le reçoit et s'assoit. Les deux notables attendent, les mains derrière le dos. Urfali engage l'une des clés sous le couvercle grand ouvert et l'applique sur l'une des chevilles. Un prudent huitième de tour. Le son diatonique se reproduit, mais avec une dissonance un peu différente. Cette fois, le battement indiquant le désaccord semble plus espacé, plus lent. L'Arménien se tourne vers les deux hommes et sourit. Cela peut prendre pas mal de temps. L'imam invite l'archevêque à visiter la mosquée et ses abords immédiats. Il s'éloigne en devisant. Urfali s'affaire. Il se lève, maintenant ses gestes sont plus secs. La sueur perle sur son front. Il a soif. L'un des serviteurs de l'imam, qui passe de temps en temps, s'en aperçoit et court chercher une bouteille d'eau minérale et un gobelet. Il pose le tout par terre, près de l'accordeur. Celui-ci boit avidement deux verres d'eau et se rassoit. Il pose ses deux mains sur ses genoux et réfléchit. Finalement, il ouvre une petite sacoche, cachée au fond de sa mallette, et en sort un appareil de la taille d'un gros téléphone portable et muni d'une courte antenne. Il tourne un des boutons de l'appareil et émet à nouveau le « la » moyen, les yeux fixés sur l'appareil. De l'autre main, il tourne la clé. Rapidement, il la retire et l'engage à nouveau un peu plus loin. Puis il recommence la même opération. Il repose l'appareil et fait sonner le « la ». Il ne bat plus. L'unisson est là. Une petite lumière verte confirme d'ailleurs la réussite. « 1/84 », pense-t-il. Il frappe à nouveau la touche. Le battement recommence. « 0/84 ». La soirée est déjà très avancée. On n'entend que les sons des notes pressées sur le clavier. « Où en sommes-nous ? » demande le cardinal. « Monseigneur, cet instrument est bien particulier. Le bois en est remarquable. »« Où en sommes-nous ? » répète l'archevêque un peu plus rudement. « J'espère terminer demain matin. » La journée du lendemain se passe à peu près dans la même atmosphère. L'imam a annulé toutes les prières jusqu'à l'achèvement de l'accord, mais il ressent le net désagrément de tout son entourage. Le cardinal commence à se lasser des promenades sur l'esplanade et il pense qu'il serait bientôt temps de rentrer à la maison. Le troisième jour, M. Yann Urfali déclare « Il y a un problème. Sans entrer dans les détails, je n'arrive pas à m'appuyer sur un son fixe sonnant à l'unisson sur les deux cordes qui composent chacune des notes du quatrième octave. Je ne comprends pas ce qui se passe, je n'ai jamais vu ça. Je n'accuse pas le piano, oh non. Mais enfin, tout de même, c'est incroyable. Quelles sont vos intentions ? » demande sèchement l'archevêque. L'homme ne répond pas directement. J'ai essayé l'accordeur électronique aussi. Il ne se fixe jamais sur les 440 vibrations par seconde, sur lesquelles repose normalement l'accord. Cela bouge toujours un peu à gauche ou à droite. C'est difficile. Quels sont vos projets ? Insiste le prochain occupant du Saint-Siège. Je vais essayer à nouveau cet après-midi, et si ça ne marche pas, alors... L'imam intervient. Alors ? Alors je me verrai dans l'obligation de renoncer. Un coup de tonnerre dans une urne funéraire aurait fait moins de fracas que le silence qui suit cette réponse. Les trois protagonistes restent immobiles. Deux longues minutes s'écoulent encore. « Bien, » déclare finalement l'archevêque. « Nous aviserons ce soir. » On l'entraîne vers le cabinet de travail attenant à la mosquée. On parle politique. L'imam Abdelkabir expose la difficulté de sa situation vis-à-vis des autorités israéliennes et les efforts qu'il fait pour contenir l'ardeur de ses fidèles. Le cardinal Del Morino explique la position de l'Église catholique, qui n'a jamais reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël.
les deux hommes voient d'un même œil cette anomalie qui s'appelle l'État hébreu. Dieu ayant chassé le peuple élu de devant lui, il avait remis la Terre Sainte à la garde des chrétiens et des musulmans, qui s'entretuaient au lieu de coopérer. La présence des Juifs à Jérusalem et leurs prétentions à cette colline sont irritantes au possible. Mais, pour le moment, ils sont les plus forts. L'imam fronce les sourcils quand l'ecclésiastique déclare « Le retour du Fils de Dieu sur terre changera peut-être cet état de choses, et sans doute sera-t-il reconnu par les hérétiques, je veux dire par les Juifs. » Il y a un léger froid, dû vraisemblablement au passage d'un peloton d'anges volant à grande vitesse et à basse altitude. Le silence est heureusement rompu par l'entrée de Yann Urfali, le col ouvert, la cravate en désordre, le visage décomposé. Un long conciliabule arrive à une impasse. Pas d'issue, pas de résultat, pas de proposition à l'ordre du jour. Le cardinal sent que ce voyage va se terminer en queue de poisson. Il a le sentiment profond que l'imam l'observe maintenant comme Saladin aurait regardé Richard Cœur de Lion sur le champ de bataille. Chapitre 4. Shlomo Steinberg, accordeur. Shlomo Steinberg consulte sa montre et murmure. 32 minutes. Il fonce comme un zèbre, ce rabbin de quartier. Yehuda Langer referme le grand livre posé devant lui. Les 7 hommes assis autour de la table l'imitent. Il termine. Ce bassin a donc 30 coudées de circonférence sur 10 de diamètre. La conclusion du Talmud stipule rapport de 3:1, rapport approximatif. Eh bien, à demain, 6:30, messieurs, au milieu de la page 12.
De quoi ?
S'exclame Shlomo. La conclution annonce 3:1 rapport approximatif, mais, dans le temple de Jérusalem, le rapport était exact. Yehuda Langer ne prête pas attention à la remarque. Il se lève et sort. Shlomo se lance à sa poursuite. Il le rattrape à la sortie de la synagogue. Cela fait 15 ans que le petit cercle d'études se réunit tous les matins après la prière. Chaque jour, une page du Talmud est étudiée. En 7 ans et demi, on termine les 2 700 pages de ces 60 traités. Le sujet du jour concerne la taille du bassin à l'entrée du temple de Salomon. Shlomo passe le bras sous celui de son ami et ils marchent ensemble vers la résidence où ils habitent. Ils se connaissent depuis plus de 20 ans et sont voisins depuis de nombreuses années. Shlomo réprimande son ami.
« Tu ne peux pas tronquer les textes de cette façon. Les autres n'ont pas fait attention, mais à moi, on ne la fait pas. »«
Laisse tomber, » réplique simplement Yehuda. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par cette expression « mais dans le temple, le rapport était exact » ? C'est pourtant bien clair, non ? La circonférence du bassin faisait 30 coudées et le diamètre 10. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans ?
Bien justement, c'est inexact.
Exactement. C'est d'ailleurs ce que dit la page. Rapport approximatif.
Décide-toi, soit le rapport était exact, soit approximatif.
Yehuda sourit. Laisse tomber.
Tu ne peux pas me donner un indice pour agrémenter mon petit déjeuner ?
Cherche dans les Rois 1, chapitre 7, verset 23.
Évidemment, débris sénile, c'est le verset qui parle de la taille du bassin, et cela constitue justement le sujet de la page du Talmud.
J'en ai déjà trop dit. Cherche, tu trouveras. Ils se séparent sous les fenêtres de Yehuda et Shlomo continue sa marche vers le coin de l'allée. Il réfléchit à cette drôle de page. Assez souvent, il avait remarqué que son ami s'abstenait d'expliquer certains passages au fil de l'étude. Quand il lui en avait demandé la raison, le rabbin avait répondu. D'une façon générale, le Talmud s'occupe de faire la clarté sur les versets et d'en extirper les conséquences pratiques. Parfois, il glisse aussi sur le mysticisme, et là, on sort du domaine de ce qu'on appelle la page quotidienne. Donc, moi, je passe. Comprends-tu ? Sur la porte du frigo, Shlomo trouve un mot de sa femme.
Je file tôt de façon à être chez les enfants avant 2 heures. Ne m'attends pas pour dîner. Appelle-moi au travail ce matin si tu as besoin de quelque chose. » Il pose devant lui une grosse tasse de café et 2 toasts beurrés. L'assiette de salade quotidienne l'attend sagement. Libation rituelle des mains, bref prière sur le pain. Tout en mangeant, il parcourt les titres du journal d'un œil distrait. Une fusée grade sur Eilat, les Iraniens à Jérusalem d'ici 1 mois, et l'État d'Israël anéanti en moins de 3 jours. Rien d'intéressant ni d'extraordinaire. Son repas fini, il ouvre les Rois et inspecte le verset 23 du chapitre 7 sous tous ses angles. Salomon fit le bassin de fonte, il avait 10 coudées d'un bord à l'autre, 5 coudées de hauteur et une forme absolument ronde, ainsi qu'une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Les commentaires demeurent muets, bizarres. Shlomo contemple la graphie du verset. Les consonnes de l'hébreu en gros caractères carrés, les voyelles, petits points et traits sous les consonnes, les indications musicales à gauche et à droite des voyelles. La circonférence 30 coudées, le diamètre 10. Le mot « cave », ligne ou diamètre, porte une indication au-dessus de la ligne. Comme cela arrive de temps en temps, il y a une différence entre la prononciation du mot « cave » et la façon dont il est écrit dans le verset. En règle générale, dans les langues sémitiques, toute lettre écrite est prononcée. Au-dessus de la ligne, Shlomo remarque la mention « prononcée cave ». Il regarde le mot écrit. Il comporte un caractère supplémentaire qui indiquerait a priori la prononciation du mot « caveau » et non « cave », ce qui signifierait « son diamètre » et non « le diamètre ». Il réfléchit un moment. Est-ce là qu'il faut chercher ? Vivement, il sort une petite calculatrice de sa poche et tape les nombres correspondant aux valeurs numériques des lettres, additionnant les 2 nombres. C'est une pratique bien connue dans le judaïsme. Les mots ont une valeur numérique qui enseigne toujours quelque chose. 100 plus 6 égale 106. C'est la valeur du mot « cave », le diamètre, tel qu'il se lit et s'écrit normalement. Multiplié par 10, le diamètre, 1060. Introduction en mémoire. 100 plus 6 plus 5 égale 111. C'est la valeur du mot « caveau », son diamètre, tel qu'il est écrit dans le verset. Multiplié par 30 égale 3330, la circonférence. Divisé par mémoire égale 3.141509. Shlomo reste un long moment devant l'affichage. Il n'y a pas de doute. La différence entre la lecture et l'écriture produit bien la valeur de pi à 1/10 millième près. La lecture représente le sens spirituel du verset. L'écriture, c'est son sens pratique. Il comprend maintenant. Rapport de 3 sur 1, rapport approximatif dans le monde concret, mais dans le temple où tout est absolu, le rapport était exact. Le spirituel et le concret s'unissent dans une harmonie mathématique, absolue, dénuée de fractions. Il lui faut un long moment pour se remettre de son émotion. Tout s'éclaire soudain dans sa pensée. Le temple est l'expression idéale d'un monde où les 3 lignes qui composent la volonté divine se retrouvent au lieu de se séparer. C'est le monde de l'unité retrouvée par une sorte de triangle idéal inscrit dans un cercle dont le rapport exact entre la circonférence et le diamètre est de 3 sur 1. Affaire à suivre, se dit-il simplement. Il s'installe devant son ordinateur. Journée libre, sauf le message d'Ophira. Venez à 4 heures précises, la prof de la petite arrivera à 6 heures et il faut absolument que le piano soit accordé d'ici là. Je compte sur vous. 8 heures exactement, le téléphone sonne. Steinberg, shalom, fait-il complaisamment. Une voix caverneuse lui répond à l'autre bout du fil. Bonjour, c'est Urfali. Tiens, quel bon bémol vous amène? Pour un bémol, c'en est un fameux, maugré Yann Urfali tristement. Il règne entre les 2 hommes des relations étroites, faites de respect et de rivalité. Ils se disputent avec acharnement le marché des pianos de la haute dans tout Jérusalem. Les 2 accordeurs se rendent aussi de petits services de temps en temps. Ils échangent leurs clients et réparent réciproquement leurs bévues. Urfali expose son problème d'une voix désolée. Steinberg l'écoute sans mot dire. Au bout de 10 minutes, l'Arménien se tait pour reprendre haleine.
Je crains ne pouvoir vous aider aujourd'hui.
Et pourquoi ça?
Vous savez bien que nous autres, nous n'avons pas le droit de monter sur le mont du temple. De plus, le waqf musulman ne nous y autorise pas. Chaque fois qu'un groupe de juifs fait 3 pas dans la direction, il menace immédiatement de mettre toute la ville à feu et à sang.
Cette fois, c'est différent. L'imam lui-même a besoin d'une solution. Ça urge.
Je regrette, je n'ai pas le droit de monter là-haut.
Et s'il mettait la ville à feu et à sang à cause de votre refus?
Vous me prêtez une grande influence sur les musulmans de cette ville, mon vieux.
Et si je vous disais que le prochain pape réclame votre présence?
Si le grand rabbin me le demandait, je ne suis pas sûr que j'accepterais, ricane Shlomo.
Je vous attends à la porte des lions à 10 heures. À tout à l'heure.
Urfali coupe la conversation et Shlomo regarde son téléphone d'un air surpris. Ses yeux se portent un moment encore sur l'affichage de la calculatrice. Le nombre 3.1415 est encore là. Il éprouve un sentiment de gêne. Il se demande ce que son rival lui veut, et il pense au sens du verset des rois et à la taille du bassin du temple. Un quart d'heure s'écoule ainsi. Le téléphone sonne à nouveau.
« Monsieur le grand rabbin désire parler à Monsieur Steinberg, s'il vous plaît. »«
C'est moi-même, » répond Shlomo ahuri.
Après un assez long silence, la voix de basse du grand rabbin séfarade se fait entendre, lente et pondérée.
Nous avons besoin de votre assistance dans une affaire qui n'a rien de simple, Monsieur Steinberg.
Le grand rabbin expose en détail la requête qui vient de lui être faite par l'archevêque d'El Morino et l'imam Abdelkabir. Il explique la situation délicate dans laquelle se trouvent en ce moment les relations entre Israël et le Waqf d'un côté, et entre le grand rabbinat et le Vatican de l'autre. Il y a des moments où l'intérêt public, et surtout la sanctification du nom divin, impose à l'homme le devoir d'agir. L'interdiction de monter sur le mont du Temple, certes, on ne peut transiger avec cela. Cependant, le verset dit nettement « Au moment d'œuvrer pour le nom divin, on passe outre à la Torah ». Il est vrai que ce verset n'a été appliqué que très rarement en 3000 ans de judaïsme, et le moment est venu de le mettre en pratique une fois encore. Si Shlomo Steinberg refuse, les conséquences seront imprévisibles. Suit une liste de responsa mentionnant les conditions à remplir qui permettent de monter sur la colline. Un bain rituel et des souliers sans semelle de cuir. Le grand rabbin parvient enfin à décider Shlomo lorsqu'il invoque le verset du Deutéronome. « Tu ne t'écarteras point de ce que les sages t'enseigneront, ni à droite, ni à gauche. » L'ordre est donc impératif et Shlomo se résigne. Il attendra à 10 heures à la porte des lions. À l'heure fixée, il stationne, sa sacoche à la main. 3 hommes se présentent à lui comme des agents des services de sécurité qui doivent l'accompagner toute la journée. Urfali arrive en courant, la main tendue et un beau sourire aux lèvres.
« Je savais que je pouvais compter sur vous, » dit-il avec soulagement.
« Je me demande ce qu'il adviendra si j'échoue là où vous n'avez pas encore réussi. »
Chapitre 5. La voix des voix. Les 5 hommes marchent d'un pas rapide. À la borne qui indique la limite ultime permise aux Juifs par leur propre tradition, Shlomo s'arrête un moment et hésite. Les autres attendent en silence. Ils murmurent les yeux mi-clos. « Et toi, Éternel, ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Et il se remet en marche délibérément. Urfali présente Steinberg au cardinal et à l'imam. Shlomo s'incline respectueusement mais ne baisse pas les mains tendues.
il attend. Urfali raconte au prélat les mérites de son concurrent et néanmoins ami. Les agents de la sécurité rasent les murs, se faisant aussi discrets que possible. Shlomo se plante devant le piano et le regarde avec attention. « Bel instrument !» fait-il enfin. Il se dresse sur la pointe de ses chaussons et regarde les jeux de cordes. Il s'assied et presse le « la » moyen, se tournant vers Yann Urfali. « C'est le bémol ?»«
Oui, » répond l'autre d'une voix lugubre.
Après un moment d'hésitation, Shlomo Steinberg tourne la tête vers le cardinal, puis vers l'imam. Il se décide à ouvrir la sacoche posée à côté de lui. Il en tire une clé d'accordeur semblable à celle que l'Arménien a utilisée la veille. Il regarde son collègue et remet la clé dans la sacoche. Le geste signifie « Si tu n'y es pas arrivé avec ça, je n'y arriverai pas non plus ». L'accordeur chrétien hoche la tête en signe d'assentiment et de remerciement. Shlomo se baisse à nouveau sur la sacoche et en sort un diapason de métal brillant. Il en donne un coup sec sur la paroi intérieure du piano et pose la petite boule sur sa tête. Il a un moment de vive surprise. Il recommence l'opération, puis se tourne vers Urfali. « Vous entendez ce que j'entends ?» demande-t-il en posant le diapason sur la tête de ce dernier. La stupeur marque le visage de Yann Urfali. Shlomo regarde son diapason avec étonnement. Il saisit l'impatience des deux hommes de religion. « Je n'ai jamais vu un tel phénomène, » déclare-t-il enfin. « Les deux branches ne vibrent pas à l'unisson. »
« Ne faudrait-il pas utiliser l'accordeur électronique ?» se hasarde l'archevêque.
« Votre Excellence, » répond Shlomo qui a adopté en la circonstance l'élocution de l'imam. « Je suis trop orgueilleux et trop sûr de moi pour employer cet objet. Mais j'ai peut-être tort dans le cas présent. »
Yann Urfali sort le petit appareil de sa mallette. Shlomo Steinberg frappe encore une fois le diapason sur la paroi du piano. Il met un doigt sur la branche gauche et laisse la branche droite vibrer devant la petite machine.
« 442 », dit Urfali. L'opération se répète, mais cette fois l'accordeur laisse vibrer la branche gauche.
« 440 tout juste », dit l'Arménien.
Shlomo sourit. « Vous êtes de la vieille école, vous. 440 vibrations à la seconde pour le la, hein ?»«
Et vous ?» demande l'autre un peu vexé.
« Je suis pour le juste milieu. 441 pour moi, c'est la vérité. »
Son sourire ne le quitte toujours pas.
« Que voulez-vous dire ?» intervient l'imam qui connaît ce genre de sourire chez les juifs pratiquants.
Shlomo le regarde, toujours en souriant.
« Oh, vous devez savoir, la vérité, émet en hébreu, elle a pour valeur numérique 441. Alors moi, j'accorde toujours le la à 441 vibrations, voyez-vous »
L'imam baisse la tête en signe de total accord.
« Peut-être bien, fait Urfali, mais il n'y a pas moyen d'accorder ce « la » à 441 vibrations. J'ai essayé toute l'après-midi. Cela bouge à chaque fois entre 440 et 442. »«
Évidemment, fait Shlomo, le bois refuse de se plier à l'électronique. Il faut procéder différemment. »«
Et comment ?» demande le cardinal.
« Si je le savais, je serais sans doute le plus béat des hommes. »
Encore un long silence. Steinberg réfléchit, un bras sur son genou et la main sur le front. Soudain, il prend le diapason et redonne un coup sec. Il le porte sur sa tête, mais le fait pivoter de 90 degrés. Un immense éclat de rire déchire le silence vénérable de l'endroit. Le rire de Shlomo va croissant. Il emplit tout l'espace de la salle. Il semble fou. Il balbutie deux versets des psaumes tout en se tenant les côtes.
« À notre retour de Sion, nous serons comme dans un rêve. Alors notre bouche se remplira de rire et notre langue de joie. »
Les autres se regardent d'un air inquiet. Shlomo se calme et attire Urfali à lui.
« Écoutez, lui dit-il simplement. Il recommence son opération sur l'Arménien. Quand la petite boule d'acier est posée sur sa tête avec les branches disposées d'avant en arrière, Yann Urfali éclate de rire à son tour.
« C'est bien cela ! C'est bien cela !»
Le cardinal et l'imam marchent à grands pas, les mains au dos. Cette comédie les agace.
« 441 ?» demande Shlomo.
« 441 !» répond l'Arménien en souriant.
Shlomo se lève brusquement et contourne le piano suivi de Yann Urfali. Tous deux repoussent la longue queue du Steinway et le font pivoter d'un quart de tour.
Maintenant, nous pouvons commencer à travailler, dit simplement l'Israélien. L'accord avance assez rapidement, au début du moins. En 30 secondes, le La du cinquième octave vibre à 882 pulsations secondes et le Mi à 665,5. L'espoir semble régner maintenant sur la colline, mais cela ne dure guère. En moins de 10 minutes, la situation redevient pratiquement la même qu'au début. Il n'y a pas moyen de procéder à l'accord des notes de la tierce. L'imam suggère qu'il faudrait peut-être essayer la méthode orientale, qui est plus proche de l'accord naturel. Les deux accordeurs s'accordent pour exprimer leur désaccord à ce sujet. Ils ont d'ailleurs essayé et cela ne marche pas davantage. Le cardinal lève la voix et déclare « Mais c'est pourtant bien simple. Si vous avez un La qui vibre à 440 pulsations à la seconde, la quinte, le Mi, doit mathématiquement vibrer à la moitié entre 440 et 880, et ainsi de suite. Il faut avancer de quinte en quinte. » Votre Excellence a raison du point de vue théorique, répond doucement Shlomo. Effectivement, si l'on prend ce chiffre de 440 ou 441, on le multiplie par 3 et l'on divise par 2, on trouve obligatoirement la quinte, et ainsi de suite. Eh bien, il y a là un problème que l'homme a découvert depuis près de 2500 ans. Cela s'appelle la quinte de Pythagore. Urfali hoche la tête. Shlomo poursuit. Il se trouve que si, en théorie, on peut avancer ainsi de quinte en quinte, la douzième quinte doit forcément retomber sur le septième octave. Maintenant, supposons que la corde la plus basse du piano tinte à une vibration par seconde. Le septième octave vibrera à une fréquence de 2 à la puissance 7, à savoir 128 vibrations par seconde. Malheureusement, si l'on part de ce chiffre 1 et on recherche les quintes les unes après les autres, en opérant à chaque fois la multiplication du résultat précédent par 3 et sa division par 2, par exemple 1 multiplié par 3 et divisé par 2 égale 1,5, multiplié par 3 et divisé par 2 égale 2,25, etc., la douzième quinte aura un rythme de plus de 129 pulsations et demie par seconde au lieu de 128 quand on passe par les octaves. Ce problème n'a toujours pas trouvé sa solution. Les gens astucieux comme Bach et Krinberger ont trouvé des moyens de contourner le problème et leurs travaux sont à la base de ce qu'on appelle l'harmonie occidentale. Mais ici, au cœur du monde, cela ne marche pas. Shlomo se rassoit et réfléchit. Comment se peut-il que le pivotement du piano à 90 degrés ait maintenant provoqué l'unisson sur la base des 441 vibrations? Dans le sens est-ouest, il y avait équilibre. Dans le sens nord-sud, un petit désaccord qui rappelle à s'y méprendre le balancement de la Terre sur son axe. Les paroles du grand rabbin reviennent à son esprit. « Ne t'écarte pas de ce qu'ils t'enseigneront, ni à droite ni à gauche. » L'équilibre, la ligne médiane entre les deux extrêmes. Soudain, le verset du matin tinte à ses oreilles, et l'enseignement du Talmud. Rapport de 3 sur 1, rapport approximatif. Mais dans le temple, le rapport était exact. Mais alors, se dit-il à haute voix, mais alors, si le rapport de 3 sur 1 est exact sur cette colline, alors peut-être aussi le rapport de la douzième quinte au septième octave serait-il exact sur le mont du temple? Ce qui est vrai de l'espace ne le serait-il pas aussi du temps? Non, ce serait incroyable, miraculeux. Les autres le regardent comme s'il était définitivement fou. Un homme qui éclate de rire, comme ça, qui bouscule un piano centenaire et se prend la tête dans les mains, il faut l'enfermer. « Il a attrapé le choc de Jérusalem », chuchote l'imam à l'oreille de l'archevêque. « Attendez un peu, qui sait ?» Shlomo se relève d'un bond et sort la clé de la sacoche. Il se met à travailler fébrilement. Il saute d'un endroit à l'autre, tournant sa clé à une vitesse effrénée. De temps en temps, il fait vibrer une corde ou une autre. Il examine l'appareil électronique, opère un petit calcul sur la calculatrice qu'il tient toujours en poche et se remet à l'ouvrage. À 3 heures, il se tourne vers les deux prélats. Son visage est empreint d'une gravité indicible. Il hésite un moment et, d'une voix profondément émue, il déclare « Nous y sommes ». Le silence accompagne ses paroles. Yann Urfali s'approche lentement de l'instrument et s'assoit. Il pose ses mains sur le clavier. Les mains tremblent. Il les serre l'une contre l'autre dans l'espoir de les calmer. Les mains reposent à nouveau sur le clavier. Le la du deuxième octave est lancé sous la vaste voûte et est suivi d'un arpège majeur. Mi septième, la mineur, si septième, puis sol majeur. Si bémol majeur, ré mineur. La voûte semble trembler, l'espace vibre. Le son est d'une perfection absolue, totale, intemporelle. C'est quelque chose d'autre, d'inconnu, d'inouï. Le son semble s'allonger, se raccourcir. L'onde semble avoir une forme plus elliptique ou plus circulaire à la fois, on ne saurait dire. Aucun battement, aucun choc. L'émotion étrangle les cœurs et les âmes. Yann Urfali joue. L'archevêque à gauche, l'imam à droite et Shlomo au milieu écoutent. Leurs six mains s'unissent dans une effusion de profonde affection. Shlomo Steinberg pleure à chaudes larmes. Il cite le verset des Nombres.
Vayishma Moshe et hakol midaber elav mi ben kanfei ha-kerovim.
Et Moïse entendit la voix qui s'adressait à lui d'entre les ailes des chérubins. Puis il ajoute, comme en extase, la voix des voix. La voix des voix. À 4h15, il entre chez Ophira. « Je vous attendais, vous êtes en retard. Où étiez-vous donc ?»«
Dieu sait, peut-être en dehors du temps et de l'espace. »